Aujourd'hui, le thème de la journée va être la compassion et on va voir comment on peut intégrer ce thème comment il s'intègre en fait avec la pensée bouddhiste d'une façon globale, mais aussi on va essayer de pas la laisser juste comme étant la pensée bouddhiste, mais voir comment nous on peut utiliser en fait et qu'est-ce qu'on peut apprendre. De cette approche. À la retraite précédente, on a vu, on a commencé avec les quatre nobles vérités ou les quatre vérités des nobles. La première étant la souffrance, donc juste la réalisation qu'il y a de la souffrance dans cette vie. Et on a vu aussi que le terme souffrance, qui est une traduction de dukkha, est en fait. Peut être très large, parce que souffrance, ça sonne très dramatique en fait, et ça peut l'être, hein, dans nos vies, nous avons des choses dramatiques, mais l'exploration vise aussi tous les moments d'insatisfaction en fait. Hein, c'est ça que le Bouddha voulait, il avait cette idée qu'il y avait une possibilité de mettre fin à l'insatisfaction, ce qui est quand même assez extrême comme point de vue, et c'est ça qu'il a proposé, qu'il a tenu jusqu'au bout. Et donc on va explorer ça. Donc il y avait la souffrance, donc déjà qui nous inspire à prendre conscience qu'en fait, même si on est d'un tempérament joyeux, même si on est si on a, je vais dire, des facilités d'état d'esprit, il y a quand même énormément d'états d'insatisfaction, soit qui ponctuent, ou soit même parfois comme une couche un peu sous-jacente. Et donc, il y a une inspiration qui nous pousse à prendre conscience de ça, plutôt qu'à le fuir. Ce qui est en soi déjà assez. Ça peut paraître un peu révolutionnaire ou un peu extrême. Et puis, il y avait les causes de la souffrance, étant la deuxième vérité des nobles. Et là, on a vu aussi que les causes, ben, ce n'est pas forcément toujours celles qui nous apparaissent en premier. On va attribuer des causes à ce qu'on vit qui vont souvent être des causes extérieures ou peut-être des causes de notre passé, ou enfin, il va y avoir. Et que si on y regarde bien, on peut trouver, ce n'est pas forcément faux d'ailleurs, mais on peut trouver aussi d'autres causes qui sont plus profondes et qui aussi expliquent ce qui est en train de se passer. Et donc, cette recherche des causes, en fait, nous mène dans le cadre du bouddhisme jusqu'à à des notions de la cause fondamentale étant l'ignorance de qui on est vraiment, par exemple. Et ça génère tout un tas de confusions qui créent des conflits avec la réalité telle qu'elle se présente, par exemple. Donc voilà, il y a plein de strates auxquelles on peut trouver des causes et toutes sont nécessaires à explorer. Et puis il y avait. En troisième vérité des nobles, la cessation de la souffrance, donc la possibilité que vu qu'il y a des causes, si on change les causes, eh ben, l'expérience change. Et donc, dans ce point de vue-là, il y a une cessation de la souffrance qui est possible. C'est différent de la notion, par exemple, d'une fatalité, ou différent de la notion d'une souffrance qui est imposée par une justice divine, un système de déité, ou un système d'hérédité, ou voilà. Voilà, il y a vraiment dans cette pensée l'idée qu'il y a des causes très précises et sur lesquelles on peut agir. Alors pas forcément les causes qu'on va attribuer en premier, qui seraient par exemple la société. Ah, dans cette société, je ne peux pas être heureux. Et c'est cette pensée-là qui peut-être crée la souffrance et pas la société, par exemple. Et voilà, comme ça on cherche. Est-ce qu'il y a une possibilité de se libérer de cette insatisfaction? Et une grande partie des discours du Bouddha, après, se focalise sur les chemins qui mènent à la cessation de la souffrance. Et là, dans les chemins qui mènent à la cessation de la souffrance, on a vu les huit vérités des nobles, le sentier octuple, le chemin octuple. Et le premier élément de ce chemin octuple étant la compréhension juste. Et là, on a vu aussi que le mot juste était employé non pas pour dire genre ça c'est juste et le reste c'est faux, mais plutôt pour dire que avec cette compréhension-là, on ne crée pas de souffrance. C'est ça que ça veut dire juste. Ça veut dire une compréhension qui ne crée pas de souffrance. Si elle ne crée pas de souffrance, alors elle est juste dans cet esprit, à la manière dont c'est enseigné. Ou en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Il y a, vous verrez, si vous suivez ou si vous connaissez du bouddhisme, il y a aussi d'autres interprétations qui vont dire que c'est plus ontologique, c'est plus la réalité est comme ça. Hein, voilà. Ici, dans ce courant de pensée tel que moi je l'aborde, juste veut vraiment dire qui ne crée pas de souffrance. S'il ne crée pas de souffrance, alors c'est une compréhension juste. Une pensée qui ne crée pas de souffrance est une pensée juste. Une parole qui ne crée pas de souffrance est une parole juste. Une action qui ne crée pas de souffrance, et voilà. On les avait vus, et l'effort, et l'effort juste, et l'attention juste, l'attention juste, et la concentration juste. Et après, ce corps d'enseignement de la quatrième noble vérité, les chemins qui mènent vers la cessation de la souffrance, il y a beaucoup de compréhension juste, qui est un peu, on va dire, l'aspect philosophique, voilà, une manière de voir et de réfléchir et de concevoir la vie qui fonctionne bien. Et là, dans cette approche-là, il y a deux. En tout cas, ça c'est ma compréhension, et je ne suis vraiment pas spécialiste du bouddhisme. Hein, mais moi, dans la manière dont je le comprends, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux grandes directions qui sont données. Une direction qui est la direction de la sagesse et qui va à l'ultime jusqu'à la notion de vacuité, qu'on abordera, on marche peu à peu vers là. Et l'autre direction qui est la compassion. Voilà, sagesse et compassion. La compassion, donc, est une compréhension juste. Et est amenée par le Bouddha comme une compréhension juste. Et je vous lis un texte Suttanipata qui vient. Enfin, Suttanipata, c'est un ensemble de textes, et ça, c'est juste un petit extrait, donc qui sont attribués directement au Bouddha. Il y a des discours qui lui sont attribués directement, et puis après ça, il y a énormément d'enseignements dans le bouddhisme, évidemment, qui dérivent de là, on va dire. Et donc, dans un discours, il aurait dit quelque chose comme que tous les êtres soient heureux. Donc ça, c'était le début de son discours. Que tous les êtres soient heureux, qu'ils soient en joie et en sûreté. Toute chose qui est vivante, faible ou forte, longue, grande ou moyenne, courte ou petite, visible ou invisible, proche ou lointaine, née ou à naître, que tous ces êtres soient heureux. Que nul ne déçoive un autre, ni ne méprise aucun être, si peu que ce soit. Que nul, par colère ou par haine, ne souhaite de mal à un autre. Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi, avec un esprit sans limite, doit-on chérir toute chose vivante. Aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation. Avec une bonté bienveillante infinie. Étant debout ou marchant, assis ou couché, tant que l'on est éveillé, on doit cultiver cette pensée. Ceci est appelé la suprême manière de vivre. Donc c'est assez radical. Sans limitation. Infini, hein, c'est des termes, voilà, il n'y a pas d'exception, en fait, dans ce qu'il dit, il n'y a pas d'exception. Il parle, d'après lui, d'une possibilité et d'une nécessité d'avoir une relation bienveillante avec la totalité de tout ce qui existe. Et c'est un peu ça qu'on va explorer. Et donc, on est un peu dans le domaine de l'amour inconditionnel, dont on a déjà entendu parler, et c'est des questions en fait, c'est des questions à se poser. Et ici, dans la manière dont moi j'aimerais qu'on aborde cette journée, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on l'aborde comme une question, qu'on se pose la question. Est-ce que ça a du sens un texte comme ça? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est enviable? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ce serait sain, en fait, d'éprouver de la bienveillance vis-à-vis de tout le monde et de toute chose? Et si c'est sain, alors comment? Est-ce que c'est atteignable? Vraiment, pas déjà venir avec des acquis de notre passé, parce qu'on a un passé culturellement sur lequel il y a même une injonction, hein, et c'est pas pour dire ça ne devrait pas être comme ça ou ça devrait être comme ça, mais il y a une injonction, aime ton prochain autant que toi-même, et culturellement, il y a une injonction d'amour et d'aimer. Et donc là, j'aimerais bien qu'on, s'il y avait moyen de mettre cette injonction de côté, qui est déjà un peu une conclusion, et de ne pas commencer avec une conclusion, mais de commencer vraiment avec une question. Est-ce que ça a du sens? Quels seraient les bénéfices? Comment ça, qu'est-ce que ça ferait en fait? Si, qu'est-ce qui se passerait si on décide d'ouvrir à plus de bienveillance, d'ouvrir à plus d'amour, d'ouvrir, voilà, d'aborder toute chose avec plus d'ouverture. Voilà, juste se questionner. Et parallèlement à ce questionnement, je vais, et pour soutenir aussi ce questionnement, je vais présenter une manière de pratiquer en méditation la bienveillance. Alors je disais dans l'email, je parlais de compassion et je disais utilisez le mot bienveillance si vous avez des résistances avec compassion. Certains d'entre nous ont une difficulté avec le mot compassion. Les mots, c'est pas toujours facile. Il y en a qui sont chargés. Et voilà, donc si vous avez une difficulté avec le mot compassion, remplacez-le par bienveillance. Quelle est la différence? Différentes personnes l'utilisent différemment, les utilisent différemment déjà ces mots, surtout le mot compassion. Bienveillance, encore, c'est assez clair, hein? Voilà, c'est vouloir du bien à autrui. Compassion, ça vient du latin et ça veut dire souffrir avec. C'est intéressant d'ailleurs, et là on peut aussi prendre une piste d'exploration et se dire, tiens, passion, souffrir, hein? Passion, hein, parce que être passionné, c'est quelque chose qui est plutôt, qui a une couleur positive. Et là, compassion, souffrir avec, passion, souffrance, dans les racines, l'étymologie. Et dans la manière dont la compassion est un peu décrite dans différents enseignements du bouddhisme, ça va souvent être de la bienveillance, comme on l'entend là, mais de la bienveillance active. Empathique. C'est-à-dire que dans la compassion, il y a une notion d'empathie, de ressentir ce que l'autre ressent. La capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Parce qu'on peut être très bienveillant, mais pas forcément ressentir ce que l'autre ressent. C'est deux choses différentes. Et du coup, on peut être plein de bienveillance, mais passer à côté du vécu des autres, parce qu'on n'a pas développé cette empathie. Et dans les pratiques qu'on va faire et qui vont être présentées ici, il y a une possibilité de développer l'empathie et la bienveillance. Comme c'est un sujet extrêmement vaste, bien sûr, extrêmement chargé, qui contient beaucoup d'émotionnel, dans la sensation de sécurité aussi. Hein, on s'est parfois construit des murs aussi pour se sentir en sécurité. Et puis si on vient toucher à ces murs, si on veut réouvrir, ben voilà, ça peut parfois être agitant, questionnant. Et donc il n'y a pas vraiment un pas à pas pour aborder le thème. C'est pour ça que je vais prendre la description de la pratique elle-même et ça nous servira de ligne directrice pour notre recherche et notre questionnement. Et il y aura un temps pour des questions et des retours après. Donc c'est une méditation qui est différente de celle qu'on vient juste de faire, dans le sens où ici on va utiliser la pensée, alors que dans celle vient de faire, on avait plutôt une intention de quitter la pensée. Ici on va nourrir la pensée et on va l'utiliser et la diriger pour nous permettre d'apprendre et d'explorer des choses. La pensée peut être créatrice et donc elle va nous permettre de créer une expérience. Et la première, dans cette méditation, qui, comme je le disais, est très guidée, très soutenue, vous verrez, c'est beaucoup de boulot pour moi de suivre tout le pas à pas. Il y a beaucoup moins d'espace, en fait. On commence par penser et ressentir, amener à notre esprit et à notre cœur la présence de quelqu'un qu'on aime. C'est-à-dire, voilà, on a les yeux fermés, et là, on va appeler à notre esprit, on va penser à quelqu'un qu'on aime, et on va générer des souhaits bienveillants pour cette personne. Hein, on va intentionnellement faire des vœux, souhaiter. Alors les souhaits, en général, la majorité des méditations de compassion que vous rencontrerez dans la tradition, donc c'est une méditation qui vient typiquement du bouddhisme, et vous rencontrerez des manières très traditionnelles de le faire avec des phrases qui sont toutes faites, et comme puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être en bonne santé, puissiez-vous être libre de la souffrance, puissiez-vous être en sécurité. Et moi, en fait, ça ne fonctionnait pas pour moi, en fait, parce que j'avais ma propre résistance à quelque chose de peut-être un peu trop ritualisé pour moi, ou un espèce de manque de liberté. Je me sentais peut-être enfermé. Donc j'ai fait énormément de retraites de méditation dans lesquelles cette méditation guidée était là, et je ne le faisais pas. Voilà. Et puis, c'est par après que je me suis mis à faire moi-même avec mes propres souhaits. Et puis, en fait, il y a plein d'autres gens qui font ça, mais voilà, ça m'était venu comme ça. Et c'est toujours ce que je fais, du coup, c'est de ça dont je vais vous parler. Il y a des avantages, des inconvénients, je le découvre après, hein, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais là, en tout cas, donc, l'idée, c'est de penser à quelqu'un qu'on aime et de lui souhaiter, bah, au début, c'est facile de. Pour moi, je commence toujours un peu de la même manière, c'est toujours, bah, je souhaite d'être heureux. Là, il n'y a pas d'erreur. Au moins. Peut souhaiter à tout le monde d'être heureux, il n'y a personne qui va venir frapper à notre porte en disant mais qu'est-ce que tu m'as souhaité là? J'avais pas du tout envie d'être heureux, moi, et maintenant me voilà heureux. Voilà, donc là, on sait que voilà, c'est un peu universel. On peut lui souhaiter d'être heureux, on peut lui souhaiter d'être en bonne santé, on peut lui souhaiter. Voilà, et puis de là, on peut commencer à, puisqu'on est en lien avec cette personne, à sentir qu'est-ce que j'ai envie de lui souhaiter. Qu'est-ce qui est important pour moi de lui souhaiter? Et de là vient un peu des souhaits qui sont peut-être plus créatifs, un peu plus personnels que des phrases toutes faites. Et on essaie de ressentir. C'est un exercice assez compliqué. C'est très différent, vous voyez, de se connecter au silence, de quitter la pensée, revenir à la respiration. C'est très différent. On est dans un autre monde, là. C'est aussi de la méditation, mais c'est complètement autre chose. Et là, donc, c'est assez difficile parce qu'on doit penser à quelqu'un, donc ça implique la mémoire. Éventuellement, on peut se voir assis l'un et l'autre dans un fauteuil, on peut se prendre dans les bras. Enfin, il y a toute un imaginaire, une créativité nécessaire. C'est pas forcément facile. Et puis, la visualisation de ça. Et pour certaines personnes, visualiser, c'est plus facile que pour d'autres. Et puis, donc, il faut beaucoup de concentration. Et en plus, l'idéal, le top du top, c'est de ressentir ce qu'on souhaite aussi. Que ce ne soit pas juste des phrases qu'on dit comme ça. Hein, donc un lien avec vraiment l'émotionnel et ce qu'on ressent. Et là, du coup, si on a tout ça, en fait, là, assis sur. Donc quand on arrive à visualiser la personne et à ressentir les souhaits, en fait, on vit une situation. On est en train de vivre une situation. Alors qu'on est les yeux fermés, assis sur notre coussin, intérieurement, il se passe une situation qui est réelle pour nous. Et on sait que notre fonctionnement, même si on prend au niveau des neurosciences, le fonctionnement du cerveau, eh ben, il se transforme constamment, constamment en fonction de chaque expérience vécue. Et il ne fait pas de différence entre les expériences extérieures et les expériences intérieures. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où l'émotionnel est engagé, enclenché, le cerveau va se transformer. Et donc là, on est en train, en fait, d'apprendre à avoir de l'empathie et de la bienveillance. Et puis après, on fait ça avec quelques personnes. Et puis on va passer à nous-mêmes. Il y a différents ordres dans différentes traditions et tout ça. Moi, je le fais dans cet ordre-là, alors je le guide dans cet ordre-là. Après, vous pourrez tout changer et vous pourrez même faire juste celui-là et pas ça. Enfin, après, c'est complètement libre. Moi, je vous le donne un peu carré, là, parce qu'il faut bien le faire d'une manière. Et donc, on passe à nous-mêmes. Et là, c'est à nous-mêmes qu'on commence à souhaiter des choses qu'on a envie de se souhaiter. Et là, à cet endroit-là de la pratique, c'est hyper riche. C'est hyper riche parce que déjà pour pouvoir se souhaiter quelque chose, il faut savoir quoi. C'est là que j'aime bien en fait de faire moi-même les souhaits plutôt que d'utiliser des phrases toutes faites parce que il y a un processus où je suis obligé de me poser la question à chaque fois que je fais cette pratique, mais qu'est-ce qui est important vraiment pour moi en fait? Vraiment, qu'est-ce que je voudrais me souhaiter dans cette vie? Sachant qu'elle est courte. Et plus on y pense, et plus on explore, et ça fait partie du chemin de la méditation, de prendre conscience de la réalité de la mort, ce qui n'est pas facile, plus on se rend compte que ouais, c'est quand même sacrément important de savoir ce que je veux, en fait. Alors, qu'est-ce que je veux? Donc, ça fait partie de cette pratique, c'est un moment de se poser la question, qu'est-ce que je veux me souhaiter? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et là, peu à peu, quand on pratique pendant assez longtemps, nos souhaits changent et s'approfondissent au fur et à mesure d'ailleurs que notre pratique de méditation et nos centres d'intérêt et nos compréhensions s'approfondissent. Et donc là, on passe un peu du temps. C'est comme les autres méditations, il y a des moments où on est complètement distrait, puis on revient, oui, j'étais avec moi, oui, ok, donc je reviens à moi. Qu'est-ce que je me souhaitais encore? Ah tiens, je vais passer à autre chose, qu'est-ce que je me souhaiterais bien? Vous voyez, donc il y a tout un tas de pensées et tout, parfois les pensées sont bien dans le thème, parfois ça part ailleurs, on ramène dans le thème, et puis on trouve ce qu'on a envie de se souhaiter et on se souhaite ça. C'est souvent, pour certains d'entre nous, ce qui se passe à cet endroit-là de la pratique. C'est qu'il va y avoir il va y avoir une voix qui peut dire ah mais non mais ça c'est pas possible ça ou bien non mais toi t'es pas capable ou ah oui tu te souhaites d'être en bonne santé ok mais il faudrait peut-être déjà que tu arrêtes de fumer ou que tu fasses du sport ou regarde ton alimentation, c'est pas très réaliste ton souhait là. Il faudrait déjà que tu changes ton alimentation. Bref, il y a une critique intérieure qui s'élève et qui nous dit qu'en fait notre souhait il n'est pas valide. Et ça, c'est super intéressant à voir et il faut surtout pas y croire. Voilà, parce qu'on a le droit de se souhaiter ce qu'on a envie, indépendamment des conditions. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on explore. Est-ce que malgré le fait qu'on n'est pas exactement comme on voudrait être ou qu'on n'est pas dans les clous comme on pense qu'on devrait être dans les clous, est-ce qu'on peut quand même se souhaiter le meilleur ou pas? Ah, c'était ça la question initiale du Bouddha et de l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel qui veut dire du coup qu'on ne met pas de condition au fait d'aimer. On ne met aucune condition au fait d'aimer. Donc que même si on n'est pas en accord à tous les endroits de notre attitude, et je pense que personne ne l'est, à moins d'avoir atteint justement un état d'éveil, ça fait partie un peu de l'idée générale, on est en désaccord avec certains endroits de nous-mêmes. Et est-ce qu'on a le droit de se souhaiter tout le meilleur malgré le fait qu'il y a des endroits où on n'est pas en accord avec nous-mêmes, ou pas? Donc là, c'est un moment de la pratique où on peut voir s'élever des voix de contradiction, des voix qui disent non, tu ne le mérites pas, non, tu n'es pas capable. Ah, voilà, ça c'est deux qui. Chez certaines personnes plus que d'autres. Et il va même y avoir pour certains, ça arrive, là, moi j'ai pas d'idée en fait de ce que je vais me souhaiter. Ou quand je peux trouver des mots, mais ça résonne pas du tout à l'intérieur. Ou j'y arrive pas même. J'arrive pas à me souhaiter quelque chose de bien. Il peut y avoir une prise de conscience qui peut même être assez douloureuse du fait que non, j'arrive pas à me souhaiter quelque chose de bien. Et là, si ça vous arrive, c'est un constat qui est attristant. Et en même temps, c'est le début du changement. Donc c'est super en fait que ça se passe parce que cette incapacité, elle est là et elle est active tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un sabotage dedans qui fait que rien ne va vraiment fonctionner. Et là, on s'adresse directement à ce sabotage. En fait, on constate que, bah oui, j'arrive pas à me souhaiter être heureux, ce qui veut probablement dire que ça se passe pas très très bien, qui est en relation avec le bonheur. Et du coup, là, on le découvre, on jette un œil dessus, et c'est le point de départ d'une transformation. Et cette pratique va permettre, avec plein d'autres choses, hein, c'est pas juste cette pratique, c'est pas la panacée ultime, mais c'est un outil qui va être quand même pas mal efficace dans la possibilité de peu à peu se chérir et s'aimer. Après, donc on passe un temps avec nous, après on va passer un temps avec des gens qui ne sont pas ni moi, ni ma famille, ni mes amis. C'est-à-dire moi et l'extension de moi. Mais vraiment des gens pour lesquels j'ai pas un intérêt particulier, comme typiquement un chauffeur de bus, peut-être le facteur, un caissier, une caissière, voilà, quelqu'un qu'on voit le visage, c'est quelqu'un qu'on voit de temps en temps, on peut rappeler son visage à notre esprit, mais c'est pas mon mamet. Et voir s'il y a cette personne qui, elle, pour sûr, a envie d'être heureuse aussi, ben, si on peut lui souhaiter d'être heureuse et le ressentir. Et ressentir vraiment ce que je te souhaite, c'est d'être heureux et c'est d'être en sécurité. Hein? C'est d'être libre de la souffrance. Là, on va être dans des phrases plus génériques parce qu'on ne connaît pas la personne. Et ça va être moins long. Parfois, avec une personne qu'on aime, on peut passer beaucoup de temps. Parfois, avec soi-même, on peut passer beaucoup de temps. Avec une personne qu'on ne connaît pas comme ça, c'est plus difficile. Hein? Ça va être des souhaits un peu plus génériques. Donc là, on passe un peu plus vite d'une personne à l'autre. On prend une personne. Et en fait, de nouveau, on est en train de créer une situation dans laquelle on est attentif, concerné, bienveillant, compréhensif, ouvert. On cultive des qualités. On cultive des qualités qui font que. Après, quand on n'est plus sur le coussin, quand on est dehors, dans la vraie vie, eh ben, l'esprit a appris et son intérêt grandit pour la rencontre à l'autre. Et on va plus voir qu'on est entouré d'individus qui sont beaux, qui ont quelque chose, ou qui sont en souffrance, ou qu'on peut aider. Donc en fait, on est en train de se dégager peu à peu de notre égocentrisme, c'est-à-dire nous au centre. Et là, c'est super, parce que là, on voit que cette pratique de compassion, elle rejoint la pratique de sagesse, avec le questionnement du soi et du non-soi. Je fais un petit pont pour ce qu'on ira voir après, mais c'est là qu'on voit qu'il y a une unité, en fait, dans ces pratiques et comment elles s'enrichissent l'une et l'autre. Peu à peu, pour pouvoir vraiment être intéressé par les gens qui nous entourent, il faudra qu'on passe un petit peu moins de temps à travailler tous nos petits pets au casque, là, tous les petits trucs qui ne vont pas trop. Voilà, il faudra qu'on en laisse tomber un petit peu pour accorder de l'intérêt à l'extérieur. Donc on agrandit un peu le cercle là. Mais il y a aussi quelque chose qui est absolument super et c'est une grosse partie de cette pratique. C'est que dans ces moments-là, que ce soit sur le coussin ou que ce soit dans la réalité, on rentre en contact avec autrui et on vit une qualité d'amour. Il y a plein de qualités d'amour. C'est pas, on n'aime pas, on n'aime pas quelqu'un qu'on rencontre comme ça et avec qui on a une bonne affinité. On peut dire qu'il y a une qualité d'amour, mais ce n'est pas le même amour que pour son conjoint. Ou que pour son enfant, ou que pour son ami. Voilà, il y a plein de qualités d'amour. D'avoir de la tolérance dans une certaine situation, c'est une qualité d'amour. Voilà, donc, en fait, on s'entraîne à être en contact avec ces différentes facettes et ces différentes expressions d'amour. Et du coup, dans notre méditation, comme dans notre quotidien, au moment où on est en contact et on est bienveillant, c'est une qualité du cœur. C'est super agréable. C'est super agréable. On vit de l'amour. Et on est les premiers bénéficiaires de ça. on a un beau moment, on passe un beau moment. Cette méditation de compassion, quand on rentre dedans, on n'a pas envie que ça s'arrête. Parce qu'on vit de l'amour. Et donc là, on rappelle et on permet à notre esprit de se sentir attentif et concerné par autrui. Donc on se donne plus de chances, en fait, de rentrer en lien et de ressentir de la bienveillance, de l'empathie, vraiment de la compassion, du lien. Et en fait, ce serait possible d'en avoir énormément du lien et de la bienveillance, et de vivre, en fait, de vivre une vie dans laquelle il y aurait beaucoup plus de bienveillance que celle qu'on vit actuellement, quel que soit notre niveau de bienveillance. C'est ce genre de question où on n'a jamais fini. On peut toujours aller plus loin dans la bienveillance, la tolérance, l'acceptation, toutes ces qualités. Une des raisons pour lesquelles je ne pratiquais pas non plus cette méditation, je vous l'ai dit, c'était les formules toutes faites, qui ne me convenaient pas. Une autre, c'est parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop bisounours, trop tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et on va très clairement adresser cet aspect pour voir que ce n'est pas du tout ça. Mais quoi qu'il en soit, à ce stade, je pense que c'est important de reconnaître que là, à la fois, on entraîne notre esprit à être attentif à autrui, à être bienveillant et à être empathique, et en même temps, on s'offre une petite dose d'amour dans la méditation ou dans le magasin ou dans le bus. Dans le bus, c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous prenez parfois le bus, c'est en voyage, moi, c'est souvent en voyage en fait que ça le fait, ou parfois dans un magasin, mais je suis plus occupé en fait dans le magasin. Mais dans un voyage, souvent, on a le temps, on est assis dans le bus là, et puis il y a les gens qui vont un peu partout. Et c'est super en fait de regarder les gens et de ressentir à l'intérieur, on ne le dit pas, hein, mais de ressentir, ben, je te souhaite d'avoir une belle journée. Et de sentir ça. Et je te souhaite que cette journée soit belle, qu'elle t'amène des compréhensions profondes, qu'elle éveille ta lumière intérieure et que cette lumière grandisse et rayonne sur tout le monde. Et on peut devenir, voyez, on peut se laisser s'enflammer. Et c'est beau et on vit quelque chose de beau et on peut passer toutes les personnes du bus un après l'autre et faire la même chose. Et on se sent vraiment en lien avec ces gens en fait. On a vraiment envie de leur dire au revoir quand ils sortent du bus. On a vraiment créé quelque chose. Et du coup, on a vécu quelque chose. Et s'il y a quelqu'un à ce moment-là qui a un besoin, tac, on est là. On n'était pas perdu ailleurs. On était bien présent et on va pouvoir servir, être utile, rendre service. Du coup, mais ça a du sens. Ça a du sens comme manière de vivre. Et quand il y a du sens dans notre manière de vivre, on a beaucoup moins de soucis en fait. Et du coup, c'est pas que je dois gérer tous mes soucis. En plus, maintenant, il faudrait que je rajoute la compassion. Alors là, m'occuper aussi des autres. Ça va me faire beaucoup, là, quand je vois déjà mes journées. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans nos journées, dans notre. La densité de notre espace mental, peut-être, qui s'évanouirait si on aimait un peu plus. Tout un tas de complexité dans notre recherche, qui ne serait plus là simplement. Ben, il suffit de se rappeler quand on est tombé amoureux. Un moment, rappelez-vous, le moment du coup de foudre, n'y a plus rien, il n'y a plus personne là. Je veux dire, tous les petits soucis ne sont pas là pendant un temps. Ça fait ça en fait. Alors, je ne dis pas qu'on cherche à vivre comme un coup de foudre permanent, ce ne serait pas du tout fonctionnel. C'est impossible. C'est impossible. Mais. Ce que je veux dire, c'est que si on peut aimer plus, il y a l'espace pour ça, parce que il y a beaucoup moins de difficultés intérieures qui vont se produire, parce qu'elles sont, c'est l'antidote en fait d'aimer, c'est l'antidote à cette prolifération de résistance, de jugement intérieur, de critique intérieure. Notre critique intérieure. cette voix qui nous dit tout le temps, tu devrais être plus comme ça, moi comme ça, encore un peu plus à gauche, et cette critique intérieure qui est tout le temps là, en fait, la pratique de la compassion, c'est l'antidote. C'est présenté comme ça dans le bouddhisme, et je le vois clairement. Je vois clairement que c'est dans ma pratique que c'est une antidote à la critique intérieure, au désespoir, à la haine. Et donc, on continue. Là, on a fait quelques personnes à gauche, à droite qu'on connaît plus ou moins. On va passer. Là, vous allez voir, ça, c'est. Vous savez où on va, là. Certains. On va avec les gens avec qui on a des difficultés. Hein? Alors là, ça pose question. Là, c'est vraiment la question de l'amour inconditionnel. Parce qu'on a des difficultés, là. On a des désaccords, ils sont réels. Et première chose, premier point, le but n'est pas de dire en fait tout va bien. C'est pas ça la pratique de la compassion. C'est pas de dire tout va bien. C'est pas de dire finalement tu es quand même quelqu'un de bien. C'est pas ça le but. C'est pas de nier le problème. Si dans notre pratique on a la sensation que c'est ça qu'on fait, il vaudrait mieux pas le faire. Ça fait pas du bien. C'est problématique en fait. Cette compréhension de la compassion. Donc là, imaginez-vous, on est sur le coussin, imaginez-vous, mais on va le faire après. On est sur le coussin, et puis on vient de passer un peu les gens à gauche et à droite, et là, on pense à quelqu'un avec qui on a une difficulté. Alors le conseil, le petit conseil, déjà, c'est de commencer avec des petites difficultés. Prenez pas les grosses histoires, on verra ça plus tard. Parce que voilà, c'est bien de s'entraîner avec les petites difficultés. Et parfois, une petite difficulté, il faut pas aller bien loin, hein. Ça peut être dans le couple, ça peut être une petite chose avec un ami, un petit endroit où c'était un peu inconfortable, on en a gardé un petit peu quelque chose. Et du coup, il reste une petite distance, parce que ça fait ça, en fait. Ça fait tout de suite, ça crée des petites distances et ça nous isole. Et c'est cet isolement dont on souffre. Et pour sortir de cet isolement, on recrée le lien d'humain à humain. Avec une personne avec qui on était en train de vivre une petite difficulté. Donc, on appelle cette personne avec qui on a une difficulté à notre esprit, et on peut lui souhaiter, parfois, quand c'est des gens avec qui on a des difficultés, ça peut être aussi assez générique, suivant si c'est quelqu'un avec qui on est plus proche ou quelqu'un. Parce qu'on peut aussi. Ça peut se faire avec une figure historique, ça peut se faire avec un homme politique, ça peut se faire. Voilà. Et donc, ça va souvent être de nouveau des termes assez génériques. Voilà, d'être heureux, par exemple. Alors, est-ce que c'est juste de souhaiter à quelqu'un qui a fait beaucoup de tort, par exemple, d'être heureux? Hein, là, on est sur la notion du pardon divin dans le christianisme. Est-ce que c'est juste de souhaiter à quelqu'un qui a fait beaucoup de tort d'être heureux? Alors là, ben, pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir vouloir dire qu'est-ce que c'est les conditions du bonheur? C'est quoi être heureux? Parce que dans le bouddhisme, ça prend le contexte, ça prend racine dans la philosophie et la psychologie bouddhiste. Et pour dans le bouddhisme, il considère qu'en fait, quelqu'un qui crée de la souffrance est quelqu'un qui souffre. Que quelqu'un qui est pleinement en paix avec lui-même ne crée pas de la souffrance. Et du coup, quelqu'un qui crée beaucoup de souffrance autour de lui, quand on lui souhaite d'être heureux, on lui souhaite aussi de trouver les chemins pour arrêter de créer de la souffrance. Parce que c'est antinomique de dire sois heureux tout en continuant à créer de la souffrance. C'est juste. Pas comme ça que ça fonctionne. Et là, je ne voudrais pas le dire comme un truc à accepter, mais vraiment de regarder comment nous, on est quand on n'est pas très heureux. Par exemple, connaissance de soi, on regarde un petit peu dedans, ou on voit nos amis, on voit les moments où ils ne sont pas heureux, par exemple, et on essaie de voir avec finesse un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se crée pour eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils irradient autour d'eux. De voir si c'est vrai, ça. Mais cette aspect de la compassion, tel que le décrit le Bouddha ici, ou dans le christianisme, le pardon divin, ça fonctionne que si être heureux veut dire trouver un équilibre dans lequel on n'est pas en train de détruire tout autour de nous. S'il y a moyen d'être heureux et en même temps de créer de la souffrance autour de nous, alors c'est peut-être pas juste de souhaiter à quelqu'un d'être heureux alors qu'il est en train de faire souffrir tout le monde. Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on doit se poser. Mais dans la mesure où on sent qu'une personne qui crée de la souffrance est en souffrance, si c'est ça que vous sentez, alors c'est juste de souhaiter à cette personne d'être heureuse. Parce que ça veut dire trouver ses chemins pour ne plus créer de souffrance. C'est ça le chemin du bonheur. Vous voyez le lien que j'essaye de faire? C'est à cette condition-là que ce point-là, cet aspect-là de la pratique est sain. Sinon, ça ne me semble pas sain. Alors c'est un moment crucial de la pratique, ça. Déjà, ce qui se passe, vous le verrez pour vous-même, c'est que dès que vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez une difficulté, pop, on est parti dans la difficulté. Ça y est. Là, si vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne qui guide, ça peut partir 10 minutes. On doit se rendre compte, ah là là, j'étais en train de faire la pratique de métta, elle s'appelle métta, cette pratique. J'étais en train de faire la pratique de compassion. 10 minutes après, on est dans les histoires, il n'aurait pas dû dire que, et moi j'aurais dû répondre que, et ni, ni, hein. Le corps, il est tout tendu, il y a le cœur qui est comme ça et tout, ok. On relâche, on remet la posture, on revient à la respiration et on y retourne. Hein? On rappelle la personne, mais là, on y retourne avec la lumière allumée, avec l'attention, je ne vais pas me faire avoir. Je vais juste lui souhaiter ce que j'ai envie de lui souhaiter, puis je passe vite au suivant. C'est vrai, hein? C'est vrai, mais c'est vraiment comme ça que je le vis, moi, parce que sinon, je me fais avoir. Parce que plus il y a d'émotionnel, plus on se fait emporter par la pensée. Hein, vous rappelez-vous, la pensée juste, c'est l'émotion juste. C'est dans le bouddhisme, il lit les deux, pensée et émotion. Donc plus il y a de l'émotionnel, plus la pensée va nous emporter et va être super puissante et tourner en boucle. Alors, un des buts de cet endroit de la pratique, c'est en fait d'en arriver à ne plus vivre de haine déjà, ou de ne pas vivre dans un état de colère permanent, ou de ressentiment. Hein, si, quand, là, je parlais des petites choses, mais après, on a parfois des plus grosses histoires. Et il se peut qu'on ait des histoires vraiment très, très grosses, et cette pratique-là, du coup, elle va être très utile pour que notre vie ne se passe pas dans une atmosphère de ressentiment. Il va falloir un moment, donc là, on en est aussi dans au pardon qui flirte avec la compassion, bien sûr. Et il y a un moment où il va falloir qu'on trouve une manière de ne pas, du matin au soir, ressasser ce qui s'est passé et en vouloir. Parce que on est les premiers à souffrir de cet état d'esprit. C'est une des pires choses qu'on puisse vivre, c'est de vivre dans la haine. Et ça me fait penser à vraiment, j'ai compris ça. D'une façon tellement forte avec le journal intime d'Étienne Loussoum, qui est un de mes livres favoris, qui m'a beaucoup impacté. Quand Étienne Loussoum, donc, qui était une juive hollandaise au moment de la montée du nazisme, et du coup, qui perdait peu à peu, les juifs perdaient des droits. Hein, il n'avait plus le droit de rentrer dans tel magasin, il n'avait plus le droit de se réunir et tout. Et puis, bon, il savait bien, les histoires de camps de concentration commençaient à être connues et tout ça. Et elle, dans son journal intime qu'on a retrouvé, en fait, très souvent, ce qui revient dans son journal intime, c'est qu'elle prie, donc elle est chrétienne, et elle prie pour ne pas être prise par la haine, pour résister à la haine, pour continuer. À vivre de l'amour et de la compassion, même pour les tortionnaires. Elle prie parce que, et on sent qu'il y a une conscience que si t'es pris par la haine, mais t'es foutu. T'as tout perdu là. Parce que tu vas plus vivre une once d'amour. Là, c'est ciel gris, c'est fini. Il n'y aura plus un rayon de soleil. Donc il faut qu'on trouve nos chemins pour ne pas rester dans des états d'esprit comme ça qui sont destructeurs. Et dès qu'il y a une tension, on le remarque avec un voisin, avec quoi que ce soit, avec un ami ou avec... voilà, dès qu'il y a un conflit, en fait, on peut passer énormément de temps dans le ressentiment, et ce qui est très différent de passer du temps dans une recherche de résolution et de comment on va solutionner ce conflit. Ce conflit, c'est juste du ressentiment. Et ça ne fait de bien à personne. Donc cette pratique nous permet en fait de visualiser la personne avec qui on est en conflit et de réussir à créer un lien où on reste en lien en tant qu'humain. C'est-à-dire des liens minimums de respect et qui laissent ouvert la possibilité de discuter. Et le test de ça, c'est quand on rencontre la personne, de réussir à dire ce qu'on veut dire. C'est pas de se soigner de manière à s'en foutre et à pouvoir vivre malgré le fait que l'autre, il est ignoble avec moi. C'est pas une manière, en fait, de réussir à tenir la pression. C'est une manière de réussir à communiquer clairement ce qu'on a besoin de dire, sans être envahi par nos émotions qui viennent complexifier notre communication, et du coup ça fonctionne plus du tout, parce que l'autre il était déjà bien compliqué, mais nous du coup on n'y arrive pas bien non plus, directement on gueule, ou alors on n'ose pas parler, ou... Et là, on arrive peu à peu, avec cette pratique, à exprimer ce qu'il y a à exprimer, à dire ce qu'il y a à dire. Et c'est super puissant. Dans la manière de gérer un conflit, c'est hyper efficace. Parce qu'on peut arriver, et c'est des choses que j'ai expérimentées, c'est vraiment, c'est pas qu'une théorie, c'est une pratique que j'ai depuis un certain temps, et j'ai eu des occasions. Des voisins, et des choses comme ça, des choses qui m'agitaient beaucoup, et j'étais obligé d'y revenir, et dans toutes mes méditations, avec le même voisin, et encore, et puis quand il y avait le truc, j'y arrivais pas. Et je retournais. Puis de temps en temps, un petit peu. Et puis il y a eu quelques fois magnifique. Magnifique, j'étais trop content. J'ai réussi à faire. Et hors situation, comme j'avais fait sur le coussin. Et c'est super efficace en fait. Parce que du coup, on dit sans haine, sans agressivité, ce qu'on a besoin de dire, c'est très clair. Et pour l'autre, ça fait bizarre parce qu'il y a plus. En fait, on apprend à ne pas créer un ennemi. Ah, le Dalai Lama était maître de ça avec le premier chinois. Hein, et toujours rester en lien, rester en communication, même être appréciatif sur ses qualités avec les dirigeants de l'invasion chinoise. Du Tibet. C'est extrêmement. C'est la meilleure manière de gérer un conflit, à mon sens. Le retrait direct et de faire deux camps et de faire une guerre, pouf! Là, parlons-en. Hein. Donc voilà, c'est pas une manière d'échapper à notre peur, parce qu'on a peur du conflit et du coup, on essaye de prétendre que tout va bien. C'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout non plus. Apprendre à avoir une réponse bienveillante, ça ne veut pas forcément dire que c'est doux et gentil, hein. Parfois, c'est la colère. Parfois, on sait qu'il faut clairement laisser sortir la colère. Et à ce moment-là, on peut avoir une réponse et laisser sortir cette énergie de la colère parce que c'est là qu'elle a besoin de venir. C'est ça qui va mettre un stop à quelque chose. On le sait avec les enfants. Hein. Les enfants, il y a des moments, en tout cas moi avec mon fils, il y avait des moments où j'avais beau avoir toutes les bonnes techniques de communication. Et pour, hein. Un moment, quand il passait toutes les limites, il n'y avait qu'une manière. Et je disais, là, Denis, il faut que tu laisses sortir la colère. Et je pouvais laisser sortir la colère. Ça pouvait être très fort. Mais jamais je ne sentais se briser à l'intérieur le lien de la communication et le lien de l'amour. Ça, avec mon fils, c'est facile. Hein? Là, en fait, c'est un peu l'endroit où on met le moins de conditions, normalement, avec son enfant. Hein? C'est un peu l'endroit où on met le moins. Après, au début, tout au début, ben, c'est l'amour inconditionnel. À la naissance, voilà, il peut faire pipi caca sur nous et tout, nous tirer les cheveux. Ça va bien. Je veux dire, on ne commence pas à s'énerver. Mais après, peu à peu, les conditions, elles reviennent. Mais quand même, avec son enfant, c'est là où on met moins de conditions que par rapport à des gens qu'on. Donc, dans cette approche qui est présentée ici, moi, ma raison, la raison, enfin, il y a de multiples raisons pour lesquelles je pratique cette méditation, mais une chose que ce n'est pas, je ne pratique pas cette méditation parce que j'ai l'idée que ça va influer sur l'expérience de l'autre. Et que donc, si je lui souhaite d'être heureux, du coup, ça va influer sur son expérience et aider à son bonheur. Ce qui est peut-être possible, hein. Il y a des théories, il y a des expériences qui sont faites et tout ça. Et peut-être certains d'entre vous en connaissent plus que moi. Mais ce n'est pas mon approche. Moi, pour moi, c'est vraiment un entraînement de l'esprit à laisser briller le cœur, à ne pas mettre autant de conditions. Ou sans, tout en se respectant, à ne pas tenir compte de ces conditions qui referment et qui referment et qui referment. Un peu cette notion du soleil qui brille sur tout le monde. Ah, c'est ça un peu la notion de l'amour inconditionnel. Le soleil, on dit le soleil ne brille pas que sur les gentils. Donc est-ce que le cœur aurait des fonctionnements différents de la tête? Est-ce que c'est toute la question, c'est est-ce que c'est la tête qui doit dire qui on aime et qui on n'aime pas? Et quand je dis on aime et on n'aime pas, alors bien sûr on a des affinités avec certaines personnes et pas avec d'autres. C'est différent, c'est pas la même question en fait. Les gens avec qui on n'a pas des affinités, est-ce que du coup c'est normal d'avoir du désintérêt? Les gens avec lesquels on a des grosses difficultés, est-ce que c'est normal de leur vouloir du mal? Voilà, c'est toutes ces questions-là en fait qu'on aborde peu à peu. Après, on continue, cette pratique continue à évoluer un petit peu et on peut aller vers un groupe de personnes. On peut le faire avec nous tous, tous les gens qui sont dans cette salle, et puis on peut chacun souhaiter à tous ceux qui sont venus ici de trouver ce qu'ils cherchent, par exemple. Et puis après, on peut prendre un pays, tous les gens qui vivent en France, par exemple, et là, imaginez par exemple une relation respectueuse et harmonieuse entre tous les gens qui vivent en France. Et oui, c'est utopique, et alors on a le droit en fait d'imaginer, de créer, de rêver, de se laisser désirer, et peut-être même le devoir. Et puis après, on peut en venir à tous les êtres humains. Ça devient très conceptuel, on n'a jamais rencontré tous des êtres humains. C'est la notion de l'être humain en nous, en fait, à laquelle on s'adresse. Et je pense que on a carrément intérêt de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui développent peu à peu une haine de l'humain, ou une idée que l'homme n'a plus sa place sur Terre, ou que l'homme devrait disparaître. Ou, vous voyez, comme on a une relation assez conflictuelle avec l'être humain, parce qu'on voit les dégâts aussi que cause l'être humain sur cette planète. Donc là, il y a quelque chose à soigner aussi, dans notre relation avec ce que veut dire l'être humain. Et puis après ça, on peut faire les animaux, la planète. Voilà. De nouveau, c'est en nous, en fait, la planète en nous. L'idée, la notion, le ressenti qu'on se fait de la planète, c'est très. En fait, c'est une partie. Certains n'y arrivent pas bien, là, ou ont des résistances, ou n'y arrivent pas bien, parce que c'est beaucoup plus conceptuel. C'est moins. C'est plus. C'est une autre zone du cerveau, même, qui travaille. Cette zone qui nous permet d'avoir une relation avec la planète, c'est pas pareil que la zone qui nous permet d'être en relation avec mon fils. Parce que là, j'ai un contact direct. Et donc, pas pour influer sur l'expérience des personnes à qui je souhaite, j'en reviens à cet endroit-là, mais vraiment comme un entraînement de l'esprit pour changer mes priorités. Pour que mes priorités, au lieu d'être moi, 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 et puis après encore moi, soient oui, moi, ok, mais pas que. Aussi les gens qui m'entourent, un peu moins. Préoccupé juste par moi-même, un peu moins ce moi au centre. Et ça, ces priorités changent grâce à la répétition. Donc dans cette méditation, on peut à la fois faire l'expérience de comment c'est bon quand on souhaite du bien, parce que c'est une expérience vécue. On fait l'expérience de comment c'est bon et comment c'est agréable. Et en même temps, on peut s'entraîner de manière à force de répétition, ça devient une priorité au niveau du fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que il va y avoir moins tout de suite quand on arrive dans une situation, qu'est-ce que je peux en tirer, et plus, qu'est-ce que je peux y amener. On change des priorités peu à peu. par la pratique, par la répétition, par la visualisation. Donc, ça génère énormément de questions, énormément de questions. Et ça peut générer aussi des ressentis pas faciles, des résistances. Il y a peut-être tout ça pour le moment chez certains de vous. On n'a pas le temps à ce stade, il y aura un temps après la méditation guidée, mais à ce stade, de rentrer dans toutes ces questions de oui, est-ce que c'est OK ou qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais je voudrais juste savoir, par rapport à la pratique que je vais guider maintenant, déjà, je voudrais dire s'il y a des endroits, par exemple, avec les personnes avec qui vous avez une difficulté, ou ouais, voilà, une personne avec qui vous avez des difficultés, ça peut pas, c'est pas forcément un conflit, c'est juste ce type de personnes, par exemple les personnes qui font preuve de racisme et d'intolérance à l'extrême, eh ben moi je peux pas leur souhaiter, ben, c'est ok, ne leur souhaitez pas. Pour le moment, peut-être un jour ou pas.